Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info c'était avec Agnès Bonfillon cette semaine pour notre plus grand plaisir jusqu'à 13h. Bonjour Agnès.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. La mort d'une spéléologue hier en Isère, elle encadrait une sortie scolaire. Tous les élèves sont sains et saufs. Quel avenir pour les frondeurs du PS? Retraite de la vie politique ou nouveau départ, nouveau parti? Thomas Desprez nous en dira un petit peu plus. Mbappé sous les couleurs du Real ou encore au PSG la saison prochaine? Les nerfs des supporters vont être mis à rude épreuve pendant les prochaines semaines.
L'été approche et il est là en tout cas ce vendredi et de très nombreux restaurateurs et hôteliers se demandent comment faire tourner leurs établissements. Il manque cruellement de bras. Comment expliquer le succès de Plus belle la vie alors que la série s'arrête? Nous en parlerons très sérieusement avec le sociologue Jean Viard.
La question du jour sur RTL.fr, elle concerne les législatives. Le Parti Socialiste a-t-il eu raison de valider, selon vous, l'accord avec la France Insoumise? Vous dites oui à 16%, non à 76%. La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Toujours orageux dans
ouais.
Le sud.
Ouais, c'est ça, c'est le cas actuellement entre la Corse et le continent. Ça commence à bourgeonner à nouveau entre le Massif central et les Alpes et cette tendance orageuse va se développer des Pyrénées jusqu'aux Alpes en PACA et en Corse cet après-midi. Partout ailleurs, on va garder un beau soleil avec des températures qui se maintiennent. 17 degrés attendus à Biarritz, 20 degrés à Besançon et La Rochelle, 21 pour Nevers et Lyon, 22 degrés à Rennes, à Lille, à Paris et 24 à Montpellier.
Merci beaucoup Valérie, à tout à l'heure 13h pour une météo complète.
RTL Midi.
La sortie scolaire a viré au drame en Isère. Cela aurait pu être pire sans le professionnalisme et le sang-froid d'une des guides spéléologues qui encadrait l'excursion. Le groupe a été surpris par une montée des eaux. Elle a réussi à faire sortir tout le monde, à aller chercher une collégienne en difficulté. Elle l'a payée de sa vie. À Sassenage, où s'est produit le drame, une très très grande émotion évidemment. Serge Puyot, tout le monde salue ce matin l'héroïsme de cette guide.
Sabine Lorne, 55 ans, mère de 3 enfants, guide spéléo confirmé, n'a pas hésité à aller au secours d'une collégienne de 13 ans, se retrouvant en grande difficulté avec la brusque montée des eaux, avant d'être emportée à son tour et de perdre la vie. Ces collégiennes qui faisaient partie de cette sortie saluent son geste héroïque.
C'est horrible ce qui est arrivé à la guide, mais au moins elle a sauvé quelqu'un en héroïne.
Elle n'est pas morte pour rien.
Lisande, elle avait glissé dans l'eau, elle s'est fait emporter jusqu'à la barrière et la guide est allée dans l'eau pour la sortir de là. Mais sauf que du coup, elle s'est fait emporter par la suite. Elle a laissé sa vie pour sauver quelqu'un. Et franchement, bravo à elle parce que ce qu'elle a fait, c'était incroyable.
Céline Zanella connaissait bien Sabine Lorne. Elle est ce matin sous le choc.
C'était une femme formidable, quelqu'un d'exceptionnel. Toujours avec le sourire, très très professionnelle, proche de ses clients, toujours à l'écoute.
Elle est allée jusqu'au bout de son engagement.
Oui, tout à fait. Ça ne m'étonne pas d'elle, c'était tout à fait dans sa nature. Très généreuse, portée sur les autres. Et elle va nous manquer terriblement.
Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête pour déterminer avec précision les circonstances de l'accident.
Le reportage de Serge Puyot pour RTL. Une jeune fille de 19 ans, mère d'un nouveau-né retrouvée mort dans les toilettes de la gare de Bergerac vendredi dernier, a été mise en examen et placée en détention provisoire. Son compagnon, âgé de 40 ans, présenté comme le père de l'enfant, est également poursuivi.
Tout à fait autre chose à présent. Et si Nordal Lelandais avait fait une autre victime?
Après avoir reçu une lettre anonyme, le procureur de la République de Grenoble veut en avoir le cœur net. Une enquête est ouverte, Guillaume Chiez.
Oui, cette lettre a été envoyée en février dernier à l'ARPD, l'association Assistance et Recherche des Personnes Disparues. Celui ou celle qui l'a tapé explique avoir été ami entre 2012 et 2017 avec Nordal Lelandais et tient à relater une scène. En 2012, alors que l'auteur de la lettre roule en voiture avec Lelandais, ils aperçoivent un homme à l'attitude étrange au milieu de la route. Nordal Lelandais s'énerve, descend du véhicule, l'insulte et lâche les chiens. L'homme part à toute vitesse. La lettre ne donne pas plus de détails, mais en fouillant, l'ARPD va faire le rapprochement avec une disparition dans cette zone. Bernard Valézy est le vice-président de l'ARPD.
On s'est aperçu qu'effectivement, à cette époque-là, il y avait eu une disparition d'un pensionnaire du foyer qui était à proximité et qu'ensuite, quelques mois après, son corps avait été retrouvé au pied d'une falaise à proximité. Donc on a pensé qu'on ne devait pas conserver telle quelle cette lettre et elle a été remise donc à l'autorité judiciaire.
L'homme de 43 ans était accueilli dans un foyer pour personnes autistes. À l'époque, l'enquête avait conclu à un accident. Le parquet a donc décidé d'en rouvrir une pour déterminer si Nordal Lelandais peut ou non être impliqué dans ce décès.
Merci Guillaume Chies du service police-justice de RTL. 18 personnes interpellées hier soir après des violences en marge du match de la Ligue Europa Conférence qui opposait l'Olympique de Marseille au Feyenoord Rotterdam.
La politique à présent et cette question est maintenant, quel avenir pour le Parti Socialiste? Pour ceux qui n'adhèrent pas à l'alliance avec les autres partis de gauche.
Autrement dit, les frondeurs et ceux qui comptent bien se présenter aux prochaines législatives. Qu'est-ce qui les attend, Thomas Després?
Ils s'auto-excluent, voilà ce que leur a dit Olivier Faure, le patron du PS, hier soir. Vous connaissez nos statuts, a lancé le patron. Les candidats dissidents s'excluent eux-mêmes du parti. C'était donc le petit coup de pression du chef hier soir, mais ça ne devrait pas faire peur ici ou là aux militants qui avaient l'investiture socialiste avant l'accord. Dans l'Hérault, par exemple, à Montpellier, Fatima Bellerj sera candidate face à celui qui a été investi par l'Union Populaire. Le tout avec le soutien de Carole Delga, la présidente PS de la région. Des députés sortants socialistes non investis par la NUP pourraient eux aussi être tentés d'y aller quand même. Des dissidences donc un peu partout en France, du côté de Villeurbanne ou encore en Sarthe. D'ailleurs, le maire du Mans, Stéphane Le Foll, s'est lui-même porté volontaire pour conduire la campagne des rebelles et il a donné rendez-vous à ses proches le 16 juillet, qui sait, peut-être pour créer déjà un nouveau parti.
Merci Thomas Després. Je vous rappelle que demain, une édition spéciale entre 11h et 12h30 vous attend sur RTL pour suivre en direct la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron avec autour de Vincent Parisot et Benjamin Sportouche, tous nos invités et des spécialistes évidemment pour suivre cette cérémonie d'investiture. 12h36 sur RTL. On passe à l'actualité étrangère avec en Ukraine un nouveau convoi de l'ONU attendu pour évacuer les derniers civils retranchés dans la Syrie d'Azovstal à Marioupol. Depuis le début de l'opération organisée par les Nations Unies, Julien Fautra, 500 personnes ont pu sortir de cette ville martyre du Donbass.
Oui, une goutte d'eau car il reste encore des milliers de personnes qui veulent quitter Marioupol, notamment les derniers civils retranchés dans la Syrie Azovstal. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les forces russes mènent des combats sanglants, malgré la promesse d'une trêve de 3 jours commencée hier matin. Le Kremlin dément, les couloirs humanitaires autour d'Azovstal fonctionnent, l'armée russe reste respecterait le cessez-le-feu autour de l'usine, répond le porte-parole de Vladimir Poutine. Dans le reste de la ville, les Russes et les séparatistes pro-russes travaillent à russifier la vie des habitants. Par exemple, les panneaux de signalisation routière ont été changés à Marioupol. Ils ne sont plus écrits en ukrainien, mais en russe. Dans d'autres villes, le rouble, la monnaie russe, commence à circuler. Les Ukrainiens affirment aussi que les forces russes préparent une parade à Marioupol pour lundi prochain. Le 9 mai, c'est le jour où la Russie célèbre son armée. Un défilé russe dans cette ville presque conquise, ou peut-être un défilé de prisonniers ukrainiens. Quoi qu'il en soit, le premier symbole de victoire pour la propagande de Vladimir Poutine.
Julien Fautra du service étranger de RTL. Le pape attend toujours une réponse. Il a demandé à être reçu par Vladimir Poutine pour parler de la guerre en Ukraine. François qui est apparu en fauteuil roulant. La santé du souverain pontife est toujours un secret bien gardé. Mais cette fois-ci, on sait qu'il souffre d'un genou. Il l'a lui-même expliquer Olivier Bonnel.
C'est la première fois que le souverain pontife est apparu en fauteuil roulant à une audience publique. L'été dernier, on avait vu le pape François pousser dans une chaise, mais c'était après une opération intestinale. Ces dernières semaines, le pape avait dû renoncer à des rendez-vous, des cérémonies, comme présider la veillée pascale. La semaine passée, place Saint-Pierre, il s'était excusé devant les fidèles pour son handicap.
Je vous demande de m'excuser car je vous saluerai assis, parce que ce genou n'arrive pas à guérir et je ne peux pas rester debout trop longtemps.
Et non posso essere in piedi tanto tempo.
Le pape subit des infiltrations pour soigner son genou droit, douloureux, dont un ligament est abîmé. Il fut un temps où les papes se déplaçaient avec une chaise à porteur, confiait-il dans un sourire il y a quelques jours au quotidien Corriere della Sera, soulignant que dans son cas, un peu de douleur et d'humiliation était nécessaire. À 85 ans, François doit se ménager, lui qui en juillet prochain est attendu en Afrique, puis au Canada, pour de nouveaux voyages apostoliques.
Olivier Bonnel, le correspondant de RTL en Italie.
C'est un sujet qui aura traversé la saison de football. À quel chant des sirènes Mbappé va-t-il céder ? Celui du PSG ou du Real Madrid ?
Rejoindre le club espagnol est un rêve pour lui. Il ne s'en cache pas, mais le club parisien semble se mettre en quatre pour lui faire une offre de prolongation qu'il ne pourrait refuser. Alors, est-ce que ce matin, Mathias Valton, les Madrilènes craignent que le petit prince du ballon rond ne leur échappe ?
Eh bien, pas vraiment, hein, même si les informations du Parisien qui indiquent qu'Mbappé serait proche de prolonger au PSG ont bien évidemment été largement commentées en Espagne depuis hier soir. Mais la mère d'Mbappé a assuré au quotidien Marca que l'option numéro 1 de son fils restait le Real Madrid, ce qui a rassuré tout le monde ici. Du côté des dirigeants madrilènes, on reste en tout cas très tranquille et très serein. Ils savent que tant que la saison n'est pas terminée, l'avenir d'Mbappé va générer énormément de commentaires. Mais ils sont très confiants et persuadés que le Français va finir par signer au Real cet été. À Madrid, les supporters comme les dirigeants ne comprendraient d'ailleurs pas qu'ils ne disent pas oui au Real, surtout sportivement, puisque le club madrilène a éliminé Paris cette saison en Ligue des Champions et vient de se qualifier pour la finale. Au niveau des résultats sportifs et du prestige, il n'y a donc pas photo entre les deux clubs. Ou alors, cela signifierait qu'Mbappé est finalement plus intéressé par l'argent que par le challenge sportif. Et comme il a déclaré que son choix ne serait pas dicté par l'argent, s'il décidait de rester à Paris, il se contredirait un petit peu.
Mathias Valton en direct de Madrid pour RTL.
50 millions d'euros de salaire plus une prime à la signature de 100 millions, mais c'est toujours moins que ce que vous pouvez gagner ce soir, Agnès, parce que l'euro-million, c'est près de 200 millions et ça coûte 2,50 €. Terminons ce journal par une devinette. Que trouve-t-on dans une usine Nespresso du café ?
Logique. Mais quoi d'autre ? What else, comme demanderait Georges ? Eh bien, en Suisse, sur le site de Romont, dans le canton de Fribourg, les travailleurs sont tombés sur 500 kilos de cocaïne, Jean Le Chemier.
La drogue était cachée dans 5 conteneurs en provenance du Brésil et livrée à l'usine Nespresso de Romont dans la région de Fribourg. Comme d'habitude, les employés ont alors déchargé les sacs de café. C'est alors qu'ils ont vu des traces de poudre blanche à l'intérieur du conteneur. Alertée, la police est immédiatement venue sur le site pour l'analyser. Verdict, il s'agit bien de cocaïne pure à plus de 80%. Il y en aurait pour l'équivalent de 50 millions de dollars. Alors, comment s'est-elle retrouvée en Suisse ? L'hypothèse la plus probable, c'est que la cocaïne était destinée au marché européen et qu'elle aurait dû être récupérée par les trafiquants avant d'arriver à l'usine. La maison mère de Nespresso, Nestlé, a immédiatement affirmé que la drogue n'était jamais entrée en contact avec la marchandise, pour le plus grand soulagement des consommateurs et de Georges Clounet, qui s'est peut-être demandé un instant s'il allait devoir annuler sa prochaine publicité.
Merci Jean Le Chemier en Suisse pour RTL.
Dans quelques instants, nos deux focus du jour. L'été approche, mais de très nombreux restaurateurs et hôteliers se demandent comment faire tourner leurs établissements. Il manque de bras. A tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi avec Agnès Bonfillon et Pascal Praud.
Un petit peu comme tout le monde avec cette problématique également du recrutement. Donc il nous reste quelques postes un petit peu à finaliser pour cet été, comme un chef sommelier, femme de chambre. Il faut trouver un rythme de vie, une organisation différente un peu pour nos équipes, pour qu'ils puissent également avoir du temps à côté du travail, parce que c'est un travail qui demande beaucoup.
Chabi et Soline Ibarbourg, ce matin, grâce à Denis Grandjou, on les a entendus aux côtés d'Yves Calvi, tous les deux à la tête de l'établissement Les Frères Ibarbourg à Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques. Comme beaucoup dans le secteur de l'hôtel et de la restauration, pas simple de trouver du personnel. Le secteur manque cruellement de bras, tout simplement. Nous sommes avec Didier Chenet. Bonjour.
Bonjour Agnès Bonfillon et bonjour Pascal.
Merci, merci d'être avec nous. Vous êtes du groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. On le disait, pas simple. On a l'impression que c'est sans fin. Il y a toujours beaucoup plus d'offres que de demandes dans ce secteur-là.
Oui, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire. On a souffert et on souffre encore un peu aujourd'hui d'une image où vous aviez des salaires qui n'étaient pas à la hauteur du travail qui était demandé, de l'engagement qui était demandé. Et deuxième chose, les problèmes de la compatibilité entre la vie privée et la vie professionnelle. Ce que disait très bien Chabi Barbour ce matin auprès d'Yves Calvi. Alors, pour ce qui concerne les salaires, nous avons procédé à une très forte augmentation de notre grille de salaire, puisque elle est d'environ 16%. Elle est applicable depuis le 1er avril. Ce qui fait quand même qu'aujourd'hui, je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, nous sommes une des rares branches professionnelles à avoir des salaires supérieurs dès le départ à près de 5% du SMIC. 85% des branches professionnelles aujourd'hui ont une grille de salaire inférieure au SMIC depuis le 1er mai. Voilà, ça c'est pour déjà attirer les éventuels, je dirais, candidats. Puis la deuxième chose, c'est vrai, c'est de trouver la compatibilité entre vie privée, vie professionnelle, l'aménagement du temps de travail, alors que nous, nous avons évidemment des horaires extrêmement contraints. C'est midi, c'est le soir, le week-end, les jours fériés. Donc, c'est cela maintenant ce sur quoi nous travaillons. Nous sommes en discussion avec les organisations de salariés pour faire avancer tout cela, et notamment le fameux problème de la coupure. Vous savez que...
Et ben justement, je vais vous couper. Je vais être obligé de vous couper pour écouter aussi Soline Ibarbour.
Oui, exactement, et nous allons aller la rejoindre. Voilà. On a la chance de pouvoir encore la voir, Soline Ibarbour, aux côtés de Denis Grandjou. Rebonjour Soline, et merci d'être avec nous. Alors vous essayez aussi de trouver des solutions pour donner envie aux salariés de rester dans le secteur et de vous adapter finalement à l'évolution du métier, à leurs envies.
Et oui, parce que on a un métier de passion. Hein. C'est sûr qu'on est au service des gens et on fait plaisir aux gens, donc c'est passionnant. Mais aujourd'hui, on sent bien que ça ne suffit pas. La passion n'est pas une excuse à tous les maux qu'on peut subir notre métier. Alors, on parle de grille salariale. Évidemment, c'est un des premiers piliers à faire bouger. Mais nous, on pense beaucoup sens donné dans le travail, un petit peu réenchanter le travail, redonner du sens à ce mot service, à ce mot donner plaisir aux autres, qui est un important. Et c'est vrai qu'on sent que quand on fédère les jeunes autour de nous sur un projet commun, on fait avancer tout le monde.
Mais ce qui est intéressant, c'est toujours les exemples concrets. Pardonnez-moi de vous couper, Soline Ibarbour. Est-ce que dans votre hôtel-restaurant aujourd'hui, il manque du personnel ?
Oui, alors il nous manque 3 postes à pourvoir. On est une cinquantaine.
Il manque quoi ?
Il nous manque un chef sommelier. Et là, on parle vraiment d'un métier de passion et d'un métier technique.
Parce vous que le payez combien, votre chef sommelier ?
Alors aujourd'hui, on a une fourchette entre 2500 et 2900 euros net.
Une fourchette pour un sommelier, c'est peut-être pas non plus ce qui est le plus pratique.
On espère qu'il aura un tire-bouchon aussi avec lui.
Bon, mais et pourquoi vous ne trouvez pas ? Parce que Bidart est une région merveilleuse. A priori, alors c'est peut-être cher aussi.
Avec un petit problématique de logement.
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Là, vous pouvez l'aider. Vous pouvez. Il a un logement de fonction, c'est impossible ça.
Alors, logement de fonction pur et dur, non. Mais nous, on aide vraiment à l'embauche, à loger. On loge de manière directe ou indirecte 25 salariés sur les 50 que compose l'entreprise.
Et vous n'avez reçu aucune proposition entre 2500 et 3500 euros pour un poste de sommelier à Bidart ?
Alors, on en a reçu quelques-unes, mais très très peu. Et on sent que le rapport des forces est inversé. C'est-à-dire qu'ils ont 5 propositions quand nous, on a une candidature.
Oui. Bon, alors vous avez dit 3 postes, ça c'est le sommelier, il en reste 2.
Voilà, et après on cherche un cuisinier de manière très simple, avec un profil, j'ai envie de dire, autant le chef sommelier, on est sur quelqu'un très qualifié avec une spécification, le cuisinier va être un profil beaucoup plus large. Et après on cherche également
cuisinier,
une femme de chambre.
Cuisinier, vous payez combien ?
Alors là, on est sur un profil soit demi-chef de partie, soit chef de partie, donc on va être entre 1700 et 2000 euros net par mois, selon le profil qu'on va trouver.
Et vous ne trouvez pas non plus ? En plus, c'est un hôtel un peu chic.
Alors, on en a trouvé 2 sur les 3 qu'il nous faut.
D'accord. Et une femme de chambre.
Et une femme de chambre. Alors là, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment un poste en saison. Donc, on a réussi à embaucher 2 personnes en CDI. Donc, ce qui peut-être a été quelque chose qui a permis de trouver plus facilement. Et la dernière personne est forcément une personne en saison parce que sur nos 3 femmes de chambre, il y en a une qui doit être saisonnière. Et donc là, c'est un petit peu plus difficile. Mais on est assez optimiste parce qu'on n'est qu'au début mai.
Et en plus, Bidart est vraiment très attractif, très agréable. C'est une ville merveilleuse.
La vie au Pays Basque est très agréable. Mais c'est vrai qu'on travaille un peu en décalé des autres. Donc, il faut l'accepter.
La petite
mais
place
ça a des
de
avantages d'être en décalé des autres.
Vous êtes loin de la petite place de la mairie ?
On est un petit peu loin de la petite place de la mairie, on est plus proche du centre de Guétary. Pour vous faire un petit peu le plan local, on a la chance d'être en pleine campagne. On est ce matin réveillé par les petits oiseaux et puis cet après-midi, il reste les bonnes odeurs autour de nous, on est pas mal.
Alors malgré l'optimisme de Soline et Chabi, Didier Chenet, une réponse courte s'il vous plaît. Je voudrais savoir si des établissements risquent de mettre la porte sous la clé en ne trouvant
pas... Parce que la porte sous la clé.
Ah oui, la porte sous la clé. Oui, mais c'est votre histoire de tire-bouchon. Tout à l'heure, ça m'a un petit peu perturbé.
Écoutez, non, j'irai pas jusque-là, mais voilà. Non, écoutez, j'irai pas jusque-là, mais il est clair que des établissements réduisent leur activité du fait qu'ils n'ont pas suffisamment de personnel. C'est soit ils réduisent pour les restaurants les plages horaires, soit pour les hôtels, quelquefois, et ben, ils ferment un étage parce qu'ils n'ont pas suffisamment de personnel. Mais moi, je veux garder espoir, et je trouve que ce que dit Céline Ibarbourg, c'est très important. On est en train, nous, de tout faire pour réenchanter notre métier, faire en sorte que les conditions de travail... C'est vrai, elles étaient compliquées, elles étaient dures. On va les améliorer. Le problème de la coupure, j'en ai parlé. Nous faisons aussi quelque chose qui est très important et qui est très rare dans toutes les branches. C'est que nous avons un système de protection, un régime de protection sociale et santé qui est exceptionnel et que nous avons mis en place déjà, vous voyez, depuis 2011. Et nous sommes en train de l'améliorer. Donc je crois que tout ça va concourir, en tous les cas, je l'espère, parce que nous sommes optimistes. Et quand j'entends Soline, j'en suis encore plus. Nous sommes optimistes. Nous allons finir par trouver le personnel qu'il nous faut.
On va rester sur ce sourire, oui.
Exactement. Et la vie sera plus belle. Et justement, plus belle la vie, bien la série s'arrête. On va en parler avec un sociologue, figurez-vous. À tout de suite.
Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr. Ils sont là. RTL Midi.
Avec Agnès Bonfillon et Pascal Pro.
Belle la vie, on est très triste que ça s'arrête. On vient de Marseille tous les deux. Ça a laissé beaucoup de tristesse aux gens.
Je sais que ça va faire très peu plaisir à ma maman qui le regarde tous les jours.
Tout a une fin, c'est bien malheureux et ça nous fait de la peine.
On entend la déception des fans au micro de Domitil Courtemanche, les fans de Plus belle la vie, puisque depuis hier c'est officiel, Pascal, la série quotidienne qui avait débuté en 2004.
Mais ça s'arrête parce que ça marche plus.
S'arrêtera alors à l'automne prochain, on va en discuter bien sûr.
Non mais c'est vraiment, les audiences sont pas bonnes.
Oui, mais c'était le premier feuilleton français quand même à avoir duré aussi longtemps. Et avec nous, pour en parler ce midi, assez sérieusement, parce que c'est quand même un rapport particulier de cette série avec ses fans, avec ses téléspectateurs. Nous sommes avec le sociologue Jean Viard. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Je vous en prie.
Toutes les générations regardent Plus belle la vie.
Bah, ça fait 18 ans. Donc 18 ans, je dirais que ceux qui ont commencé à la regarder à 14-15 ans, ils sont parents aujourd'hui. Donc si vous voulez, c'est vrai que c'était surtout les jeunes, mais sur une aussi longue période... c'est effectivement devenu un événement. Il y a eu quand même, je crois, 4535 jours, si vous voulez. Donc, vous voyez, c'est énorme. C'est quasiment une génération, en fait. Hein. Et puis, c'est une série qui était intéressante parce que c'était une espèce de série du quotidien. On avait un peu l'impression qu'il faisait le scénario le matin pour tourner le soir, hein, avec des jeunes. Pas que des jeunes, mais beaucoup de jeunes. Et c'était... Au fil de la vie du quotidien, il y avait des jeunes, il y avait des jeunes immigrés, des jeunes homosexuels, il y avait des dealers, il y avait, si vous voulez, il y avait des flics, enfin, il y avait différentes populations. Donc, c'est un peu comme si c'était une espèce de radioscopie. Alors, je n'ai pas regardé tous les épisodes, hein, mais comme si c'était une espèce de radioscopie d'une jeunesse marseillaise. Et si vous voulez, ça a beaucoup contribué, je crois, à modifier l'image de la ville. Il n'y a pas que ça qui a modifié l'image de la ville, mais c'est un des éléments importants qui a rendu Marseille attractive. Il y a plein de jeunes qui viennent s'installer dans cette ville parce qu'ils se rendent compte que c'est une ville un peu fêtarde, un peu déconnante, si je peux parler un peu simplement, et qui est très attractive, notamment chez les jeunes qui sortent de fac, qui sont diplômés. Tout, voyez, donc ça a contribué à donner à Marseille une image attractive qui se voit dans les flux de population ou dans le prix des loyers. Donc c'est rigolo de voir que ça a modifié un peu l'image parce que c'était pas violent. Même si ça touchait à la drogue, si ça touchait au rapport des policiers avec des jeunes des quartiers, etc.
Mais les gens, évidemment, Monsieur Viard, pouvaient s'identifier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que longtemps, on a cherché des héros. Dans la littérature, on aimait Edmond Dantès ou Monte Cristo parce qu'il nous faisait rêver, ou Zorro parce qu'il était différent. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on aime retrouver quelqu'un qui nous ressemble. Sur M6, il y a Scène de ménage, il y a eu Un gars, une fille, il y a eu Fais pas ci, fais pas ça, il y a eu Plus belle la vie. Au fond, ce sont... c'est monsieur et madame tout le monde. Est-ce que vous en tirez des conclusions ?
Non, mais c'est assez vrai ce que vous dites. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un peu une fonction miroir, si on peut dire les choses comme ça. C'est effectivement...
On veut plus de super-héros. Et ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous, vous en avez une analyse là-dessus ?
Mais je pense qu'on est dans une société, au fond, où on cherche une espèce de banalité du quotidien. On n'est pas dans une période héroïque. On est plutôt dans une espèce de période d'essayer de trouver du bonheur de vivre dans un monde un peu difficile. Donc, si vous voulez, c'est ça que j'aurais tendance à dire. On n'est pas dans une période héroïque. D'ailleurs, peut-être pas assez. Vous savez, c'est un des problèmes de la société française. C'est une société qui fonctionne bien à l'héroïsme, au grand projet universel, au grand discours, au grand roi, au grand président. Et en ce moment, ben, un peu, la société qu'elle n'a pas de projet. Donc, c'est ce lien que je ferai.
Bah, merci beaucoup, monsieur Viard. Plus belle la vie, c'était un joli titre. Et puis, on peut regarder Scène de ménage sur M6, pourquoi pas, qui, effectivement, traduit aussi cette vérité du quotidien avec des personnages qui sont proches de nous. Il est 12h58. Valérie Quintin est arrivée dans ce bureau et on la félicite. Parce que vraiment.
Dans ce studio même.
J'ai dit dans
bureau.
Quoi ? Dans ce bureau.
Je
dans
me
ce
rattrape,
studio.
J'essaie de.
Et il va faire un temps magnifique ces prochaines heures. A tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50 centimes.